Bonjour, Daniel Cadillac, président de l'association culturelle de Beaulieu. Je viens vous présenter donc le numéro 3 des chroniques de Beaulieu. Nous allons suivre un petit peu l'actualité, tout particulièrement donc avec la première exposition qui va avoir lieu dans la salle des Convers du 7 mai au 3 juillet. Il s'agit donc de l'exposition de l'artiste franco-allemande Bettina von Arnim qui vit à Concotz, à côté de Cahors. Et cette première partie sera animée donc par François Mathieu qui s'est chargé en particulier de la traduction allemand-français des textes qui vont accompagner le catalogue. Donc ça sera le premier entretien que vous allez écouter dans cette séquence. La deuxième séquence intéresse une des associations que nous avons rencontrées pour le pôle culturel. Il s'agit du Fractal Théâtre. La seule association qui est un petit peu extérieure à la région, puisque son siège est dans la région parisienne, bien qu'elle ensuite elle s'exprime dans toutes les régions de France. Cette deuxième partie de l'émission sera animée donc par Jean Coheny, notre trésorier. Donc nous vous attendons pour ce vernissage en particulier de cette exposition vers 16h et cette exposition durera jusqu'au 3 juillet. Pour ce samedi 7, un certain nombre d'événements nous intéressent. On espère bien sûr la présence de nombreux élus. Et nous avons une salle qui a été particulièrement bien rénovée parce que nous avons un certain nombre de bénévoles mais qui ont des compétences larges et qui nous en font profiter. Pendant ce vernissage, il y aura donc la présentation officielle des associations du pôle culturel. Et ces associations vont participer à toutes les chroniques de Beaulieu successivement et donc à la radio de Quélus. Donc vous les aurez présentées officiellement à cette occasion-là. Et j'en profite aussi également pour vous inviter à assister aux journées de l'orgue qui se dérouleront à l'église de Villeneuve d'Aveyron par une des associations du pôle culturel précisément. Cette association s'appelle Musique Vivante. Il y aura des pièces jouées à l'orgue de cette église et ensuite une visite d'un atelier de facteur d'orgue, s'il s'agit de Sébastien Rébé, dont vous aurez à la fois le plaisir d'écouter cette musique et en même temps le plaisir de découvrir comment cet outil merveilleux qu'est un orgue peut être fabriqué.
Ça se passe dimanche 8 mai en l'église de Villeneuve d'Aveyron, à partir de 15h30.
Donc voici la première séquence avec François Mathieu, qui, avec donc les cisterciens, et au sujet de cette exposition Bettina von Arnim, tous les liens qui peuvent être faits à travers les siècles et les démarches spirituelles et intellectuelles de tous ces gens.
François Mathieu nous avait parlé lors de la précédente émission de Chronique de Beaulieu des cisterciens. Pourquoi des cisterciens ? Parce que Bettina von Arnim expose à la salle des Convers de l'abbaye de Beaulieu à partir du 7 mai et que Bettina von Arnim peut se rattacher ou se rattache à l'art cistercien. Aujourd'hui, François va nous parler de l'œuvre de Bettina von Arnim et nous expliquer comment elle se rattache à cet art. François, peux-tu nous parler des tableaux de Bettina ?
Oui, alors cette exposition a un titre, c'est « Traces d'Icare, le labyrinthe miroir ». Et avec cela, on aperçoit déjà quelle est la tendance de cette exposition. Je reviendrai tout à l'heure sur Icare et l'importance du labyrinthe. Ces tableaux, quand on les regarde, qu'est-ce qu'ils montrent ? Eh bien, ce sont des perspectives de volume géométrique pour une partie de son œuvre, et une autre partie de son œuvre montre des cyborgs. Les cyborgs étant ces espèces de robots humains. L'un des tableaux les plus importants montre un cyborg lui-même mis en perspective dans un relief de parallélépipèdes rectangles fuyant à l'horizon et constitue ainsi une synthèse des deux parties essentielles de son œuvre. Alors après, vous avez un tableau sur lequel on aperçoit des tubulures sous un ciel aux nuages menaçants. Ce sont des gros cumulus gris et une espèce de ciel d'orage. Un autre tableau montre des volumes géométriques enfermés dans des espaces pentagonaux. Des labyrinthes à plat pour un autre, vu au-dessus comme une planche de jeu de société. Je ne suis pas très fort en jeu de société, mais j'aperçois le jeu de Go, par exemple. Des labyrinthes encore en perspective, des couloirs aux murs de béton ou de briques aveugles. Quelque chose qui attire mon attention particulièrement, un tableau ou plusieurs tableaux qui attirent mon attention, ce sont des suites en perspective de caractères d'imprimerie directement inspirés des caractères en plomb mobile typographique que certains d'entre nous ont connus quand on ne travaillait pas encore avec pour imprimer les journaux, quand on travaillait encore dans les ateliers de typographie. Et puis, une œuvre intéressante, et je suis heureux qu'elle soit exposée à cette exposition à Beaulieu, ce sont des sortes de dessins d'architectes mettant en œuvre des constellations, des cadrans solaires, selon la suite de Fibonacci. Il s'agit en fait d'un projet qu'elle a appelé le labyrinthe miroir, un projet pour une colline au-dessus de Cahors et du Lot, la Croix-Magne, avec un plan du labyrinthe avec les sept couloirs des planètes.
Qu'en penses-tu ?
Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Quel est le point de vue du regardeur qui va être, quel va être le point de vue des personnes qui vont venir visiter cette exposition ? Nous avons l'impression de survoler des jardins de la géométrie spatiale. Ce sont des vues aériennes avec un horizon qui recule de plus en plus. Parfois, on aperçoit des engins volants qui les survolent. Donc, nous ne sommes pas dans ces engins volants, mais nous les voyons survoler, ces paysages. Et ces engins volants, ce sont des cristaux qui errent dans un silence, je vais dire assourdissant, c'est un cliché d'allier les deux mots, mais qui errent donc dans un silence assourdissant dans le ciel. Et autre impression que peut avoir le regardeur, c'est celle de ces architectures urbaines, désurbanisées, vides de vie, dans lesquelles le regardeur se sent être un unique survivant. Il n'y a dans ces tableaux personne, sauf parfois un tout petit personnage dans un coin qui passe tellement inaperçu qu'il faut vraiment que l'on vous dise « Regarde, c'est à cet endroit-là qu'il y a de la vie ».
Donc si je comprends bien, l'œuvre de Bettina, c'est une œuvre très rigoureuse, assez austère, simple, autour d'une géométrie spatiale, et assez dépouillée.
Et très précise.
Extrêmement précise.
Elle vient, il ne faut pas l'oublier, elle vient de cette école allemande de Dresde et de Leipzig, l'école du vérisme, avec donc des peintres qui ne font pas du photoréalisme, mais qui font des montages à partir de la réalité et qui peignent avec une extrême précision, ce qui est son cas.
C'est autant une architecte qu'une peintre.
Je vois les deux chez elle, effectivement. Hein, je vois les deux, et en particulier là cette œuvre-là, le labyrinthe miroir, ça a toute l'épure d'un travail d'architecte.
Comment peut-on qualifier son inspiration?
Alors, ses sources d'inspiration sont multiples. Elle a appris la peinture dans les années 60-70. Et si nous nous souvenons, bon, je suis de sa génération, si nous nous souvenons bien, on peut considérer que la fin des années 1960, c'est, au moins en Occident, la prise de pouvoir des technocrates. Elle est le témoin d'une industrialisation effrénée de l'agriculture dont on voit aujourd'hui, n'est-ce pas, les résultats. Et ce qu'elle va traduire par des paysages détruits, des paysages, je suis obligé de le dire entre guillemets, des paysages martiens, mais taillés au cordeau. C'est aussi l'époque de la conquête de l'espace, avec les exploits des astronautes conquérants de l'espace et des équipes scientifiques soviétiques et états-uniennes qui remportent d'énormes succès, n'est-ce pas, quand on voit ce qui est fait avec les astronautes, c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Mais elle y voit un danger pour l'homme, cette hyper mécanisation, industrialisation, etc. Pour elle, l'homme y perd son âme. Elle va traduire cela. J'ai parlé des labyrinthes et puis j'ai cité le mot cyborg. Elle y voit le fait qu'on est en train de transformer l'homme en homme-machine. Elle traduit ça en français, bon, sa langue maternelle, c'est l'allemand, et elle traduit cela avec un terme que moi je n'aime pas beaucoup, qui est le terme de les mecs-machines. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais je trouve que homme-machine va mieux. Alors, c'est quoi? C'est des robots. Ce sont donc des cyborgs, c'est-à-dire des organismes cybernétiques, des êtres humains qui ont reçu des greffes de parties métalliques. À cette époque, avec les androïdes, et puis aujourd'hui ça se voit encore, n'est-ce pas? Je crois que c'est hier où je voyais à la télévision des robots que la SNCF est en train de mettre en place pour ramasser les saletés dans les gares, pour porter les bagages des personnes qui ne peuvent pas porter leurs propres bagages, etc., etc. Bref, avec les androïdes, on s'était mis à rêver, et je crois qu'aujourd'hui, on rêve encore. Elle les peint en remplaçant les organes, nos organes qui nous constituent, par des tubes, des entonnoirs, des plaques, des sangles métalliques. Et au fond d'elle-même, ça, pour elle, dans sa peinture, elle traduit sa dénonciation de ce qui est pour elle un dévoiement de l'idée de progrès, une vision de l'homme parfait, parfait, entre guillemets.
Elle nous montre la déshumanisation de nos sociétés. Et le labyrinthe?
Oui, le labyrinthe. On sait plus ou moins, on a lu ça quand on était jeune, et puis on l'a relu parfois, parce que le labyrinthe du Minotaure est célèbre. Donc on connaît le labyrinthe. Le labyrinthe du Minotaure avait été construit par Dédale, dont j'ai prononcé le nom un peu plus tôt. Dédale, c'était ce scientifique grec, architecte, etc., etc., qui avait formé son neveu, et son neveu l'avait dépassé en particulier, non, l'avait dépassé simplement, et donc, jaloux, Dédale l'avait précipité du haut de l'Acropole, et avait donc dû s'enfuir, et s'était réfugié dans le palais crétois du roi Minos. Le roi Minos, qui avait fait construire un labyrinthe pour enfermer le monstre qui était né des amours de la reine Pasiphaé et d'un taureau. Chez Bettina von Arnim, ce sont des champs de labyrinthe qu'elle peint, des réseaux de pipelines sous un ciel oppressant, des espèces de systèmes alvéolaires. Quelle en est la symbolique ? Eh bien, le labyrinthe nous renvoie au cheminement créateur. C'est un parcours qui symbolise l'initiation itinérante de tout artiste qui doit se concentrer sur lui-même en empruntant les couloirs obscurs que lui présentent ses sensations, ses émotions, ses idées, et en supprimant tout obstacle à l'intuition pure pour parvenir à la lumière. On dit autrement, le labyrinthe est le symbole de l'œuvre, en construction, de l'œuvre construite, de l'œuvre renouvelée.
Et donc toute cette écriture de la déshumanisation de nos sociétés repose sur une construction géométrique, mathématique, architecturale, qui est la suite de Fibonacci, que l'on pourrait, d'une façon plus schématique, appeler le nombre d'or, si cher aux architectes. Peux-tu nous dire quelque chose sur cette suite et le lien plus précis avec l'œuvre ?
Oui. Alors, je ne suis pas mathématicien, mes professeurs de mathématiques m'ont complètement raté, mais j'aime cette idée qu'a eue ce personnage Fibonacci, dit autrement Léonard de Pise, c'est au XIIIe siècle, qui invente cette suite qui mène au nombre d'or, dont je ne dirai pas grand-chose, parce que il faut une émission complète pour parler du nombre d'or, et il faudrait que moi-même j'en sache un peu plus. Mais cette suite fonctionne de la façon suivante. Je prends 1 et j'y ajoute 1. Ça fait 2. Je reprends le 1 et le 2. 1 plus 2 égale 3. J'ajoute le 3 au 2 qui le précède, ça fait 5. Je prends le 5 et je l'ajoute au nombre qui précède 3, ce qui fait 8. 13, etc., etc. Et on cite souvent cet exemple pour parler du nombre de la suite de Fibonacci. Un homme met un couple de lapins dans un lieu isolé de tous les côtés par un mur. Combien de couples obtient-on en un an si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple à compter du troisième mois de son existence? Et cette formule est en lien étroit avec le nombre d'or, et qui est en architecture la base même de la construction en harmonie, et qui va être retravaillé en particulier par Le Corbusier avec son modulor.
Et les cisterciens là-dedans ?
Oui, les cisterciens, la première chose, c'est qu'ils ont travaillé sur le nombre, en architecture, sur le nombre d'or, d'où les dimensions tellement harmonieuses de tous ces monastères à travers l'Europe, car les cisterciens, s'ils se sont développés en France, ont essaimé à travers toute l'Europe. Alors, un petit mot sur l'ordre cistercien, pour rafraîchir notre mémoire historique, qui souvent a besoin qu'on la rafraîchisse. En 1098, Robert, un abbé de l'abbaye de Molesme, obtient d'eux de premier duc de Bourgogne la terre de Citeaux dans la région de Dijon, située dans un lieu inhabité, pour y établir un monastère où on reviendra strictement à la règle des bénédictins. Robert de Molesme critiquait ce qui se passait alors dans les monastères bénédictins réformés par l'abbaye de Cluny. Chez les Clunisiens, l'accent était mis sur la prière et le travail intellectuel. Et on va s'en souvenir, n'est-ce pas, pour ce que je vais dire des cisterciens dans quelques instants. Chez les Clunisiens, le travail manuel est en grande partie délaissé par les moines. La richesse des Clunisiens est créée par les paysans qui cultivent les domaines des abbayes. L'ordre cistercien aussi était très présent, je l'ai dit, dans toute l'Europe. Et je vais y revenir dans quelques instants, mais je continue sur les cisterciens. La devise des cisterciens, c'est en latin « ora et labora », à savoir « prier et travailler ». Les moines cisterciens remettent à l'honneur le travail manuel. Ils prônent la pauvreté individuelle des moines. Une vie collective sévère. Il y a dans le couvent une seule pièce, celle où se trouvent les malades, qui soient chauffés. Le reste, les dortoirs, on ne connaît pas en hiver le moyen, on ne connaît pas la chaleur. Les offices religieux sont très très simples, de même que les bâtiments conventuels. La simplicité et le refus du décor qui pourrait détourner de la prière sont de mise. Et en 1119, la règle cistercienne ou charte de charité est fondée et va devenir un complément et une opposition à la règle bénédictine.
Donc, ces cisterciens que tu nous décris, nous les avons vus et vécu un petit peu avec eux dans le film magnifiquement joué, entre autres, par Lambert Wilson, des hommes et des dieux, sur les moines de Tibérine, qui étaient des cisterciens. Oui. Les trappistes, de nos jours, sont toujours des cisterciens. Alors, ce sont des bénédictins un petit peu particuliers, austères, un peu rigides. Ce sont des gens qui accordent beaucoup de respect au travail manuel. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la vie de ces cisterciens et de leur vie quotidienne?
Alors, d'abord, dans un premier temps, ils ont colonisé. Il ne faut pas prendre ce terme dans le sens moderne du terme.
Dans le sens d'aujourd'hui, oui.
Ils ont colonisé des terres dans des fonds de vallées et des terres qui étaient prometteuses quand elles seraient défrichées, quand elles seraient drainées. Donc, et là, ils se construisent des maisons en bois, contrairement donc aux bénédictins, c'est eux-mêmes et les frères convers qui construisent.
Les frères convers, ce sont...
Alors, les frères convers, c'est des laïcs.
Ce sont des laïcs. Hein?
C'est des laïcs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils sont pas moines, mais ils vivent à l'intérieur de l'abbaye dans un lieu qui leur est réservé.
Et ils savent souvent lire et écrire, et c'est eux qui assurent le contact entre les moines et la vie civile entourant l'abbaye.
Voilà. C'est économiquement parlant, ils ont ce rôle de lien. Hein, et par ailleurs, la plupart du temps, enfin, il y a certes des paysans, des ouvriers, etc., mais il y a aussi des intellectuels, hein, et certains des architectes en particulier de ces abbayes sont des frères, sont certes des moines, mais peuvent être aussi des frères convers. Hein,
hein. Oui, rappelons-nous que le rôle des frères convers dans notre société, ce sont eux en particulier qui ont créé les premiers cahiers de doléances en Isère, à l'abbaye de Bonnevaux.
Je l'apprends.
Donc nos cisterciens étaient des gens rigoureux, stricts. Et contrairement aux clunisiens, bénédictins clunisiens qui étaient habillés de noir, eux sont habillés de blanc.
Sont habillés de blanc. Hein. C'est une chose qui est remarquable. C'est que l'environnement quotidien des cisterciens est sans couleur. C'est une volonté, sauf le blanc qui, au Moyen-Âge, il ne faut pas l'oublier, est considéré comme une couleur. Hein, on sait aujourd'hui que comme le noir et le blanc ne peuvent pas être considérés comme tels, mais bon. Et en particulier, l'habit des cisterciens, qui est fabriqué par les moines et les convers à l'intérieur des couvents, est blanc. C'est la couleur de la laine brute non traitée. Je note au passage qu'il n'est pas facile d'obtenir du blanc. La toile est exposée à la rosée matinale puis au soleil, mais la couleur ne tient pas et vire rapidement, sans doute à un gris, à un bistre, quelque chose comme ça, un peu ce que nous appellerions, nous, la couleur laine.
Voilà, laine brute. La couleur des draps de lin de nos grands-parents.
Voilà, et je dois dire que hier, mon épouse a rangé l'armoire et en a retrouvé. Et c'est toujours un moment d'émotion. Dans les abbayes clunisiennes, rien n'est trop beau dans le décor pour magnifier la gloire de Dieu, les couvents cisterciens sont dépourvus de couleurs et de décors. On le voit quand on vient à Beaulieu, hein, qu'on est sous la nef, on cherche, alors certes il y a quelques motifs, mais ils sont extrêmement discrets. Alors que dans une église clunisienne, c'est un éclatement de couleurs et de formes.
Les cisterciens sont des architectes, alors que les clunisiens sont plutôt des décorateurs.
Oui.
Cet art cistercien que l'on retrouve dans le bâtiment de l'abbatiale de l'abbaye de Beaulieu, comment peut-on le caractériser ?
Les termes qui me reviennent sont toujours, il y a la grandeur, la hauteur, l'espace et la pureté des lignes, l'austérité des volumes. Le plan, alors il n'y a pas de plan qui a été décidé centralement pour toutes ces constructions, mais on a une nef à collatéraux précédée d'un porche coupée par un grand transept sur lequel s'ouvre un chœur carré et de chaque côté de petites chapelles limitées par un mur plat, bien que ici à Beaulieu ces chapelles n'y sont pas.
Et ce qui est remarquable à Beaulieu, c'est la luminosité de l'abbatiale.
Oui.
On sait que les cisterciens n'utilisaient pas de vitraux colorés. Leur verre de vitrage, c'était un verre transparent comme le nôtre, et c'est la grande caractéristique de cette construction, sa grande luminosité. Elle est ouverte à Dieu.
Oui. Et puis, alors, ça c'est le lieu, on va dire, pour la prière, hein, pour la contemplation, pour la méditation. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un lieu économique. Hein, c'est qu'à côté de ce lieu de prière, eh bien, il faut qu'il y ait dans l'enceinte une cave, un moulin, un jardin, une boulangerie, qui vont être nécessaires à la vie des moines, et aussi, évidemment, qui va leur laisser tout de même le temps de la prière.
Et on oublie souvent qu'une abbaye, ce n'est pas une église, c'est l'église, et puis tout ce qui va avec, qui permet la vie des moines en autarcie. Donc, ces bâtiments avaient une fonction, donc la fonction de prière, mais aussi d'autres fonctions, des fonctions de travail, puis des fonctions de vie courante
économique. Oui. Et je voudrais encore rajouter une petite chose. Si j'ai dit qu'il n'y a pas de plan général, bon, j'ai traduit il y a quelques années un immense bouquin sur l'art des abbayes en Europe. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Aucune. Véritablement, je ne peux pas dire. Ça, c'est bon. Mais il y a quand même quelque chose qui réunit ces lieux. C'est une unité, l'unité du site, l'unité des plans des bâtiments, ce qui ne veut pas dire qu'on reprend les mêmes plans, hein, mais il y a une unité.
L'unité de la fonction.
L'unité de la fonction.
Ce qui nous ramène au moduleur et à Le Corbusier.
Voilà.
Et comme Le Corbusier, la fonction, si elle est importante, n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est l'utilisation que l'on en fait. C'est le pourquoi et comment on la construit et on y vit. Comment s'établissait à l'intérieur de l'abbaye la relation entre les convers et les moines ?
Sans doute au moment du travail à l'extérieur.
Hein ? Est-ce que les moines sortaient aussi pour travailler à l'extérieur ?
Peut-être en sais-tu plus que moi à cet endroit.
Non, je sais pas. Je sais que les chartreux, par exemple, ce sont les convers qui assurent le travail.
Là, les moines travaillent. Hein. C'est vraiment une donnée. Ouais. Donc ils sont à l'extérieur aussi à l'occasion.
Hein. Et on voit qu'ils ont travaillé à l'extérieur. On le voit sur tous les travaux hydrauliques faits sur la Seille et toute la science que ces moines avaient de l'eau, mais pas que de l'eau, aussi de l'agriculture, toutes les constructions en terrasse, tout qu'ils utilisaient pour produire sans doute de la vigne, mais aussi pour produire des céréales et puis tous les éléments dont ils avaient besoin. Comment peut-on conclure ?
Comment peut-on conclure ? Oui, j'ai employé certains mots. Au début, j'ai parlé de géométrie spatiale. J'ai employé le nom simplicité, les noms dépouillement, rigueur et austérité. Et ces mots que j'ai appliqués tantôt à Bettina von Arnim et aux cisterciens sont pour moi les mots essentiels et des mots essentiels que l'on pourra avoir en tête lorsque l'on va venir à l'exposition de Beaulieu voir les œuvres de Bettina von Arnim. Et dans un lieu, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux, même si j'ai vu ses œuvres ailleurs dans de belles salles d'exposition, mais on ne pouvait pas rêver mieux que la salle des convers pour montrer ses œuvres plus ou moins récentes.
Ben je te remercie, François, pour toute cette ouverture que tu nous as donnée sur Bettina von Arnim et sur les cisterciens. Et On se rencontrera lors du vernissage le 7 mai à 16h à l'abbaye. Merci.
Merci aussi.
Après l'audition de cette interview, Jean Coigny va s'entretenir avec la présidente de Fractal Théâtre.
Fractal Théâtre est une des associations du pôle culturel de Beaulieu. Et Nathalie Pivin donc, est une de ses représentantes. Et je vais lui demander de présenter Fractal Théâtre.
Le Fractal Théâtre, c'est une association de 1901 qui a été créée pour monter des spectacles. Parce que moi, je suis comédienne depuis 20 ans. Et il y a une petite dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité d'avoir des lieux pour monter des spectacles et j'y ai pris vraiment goût. En fait, je fais ce métier parce que j'aime la littérature. Et voilà, donc j'ai eu envie de fonder une association pour pouvoir moi-même faire du théâtre à ma manière. Et voilà, comment est né Fractal Théâtre.
Donc tu fais la mise en scène, mais tu n'es pas seule dans l'association.
Non, bien sûr, à chaque fois que je fais une mise en scène, bah, j'ai des artistes avec moi, que ce soit évidemment des comédiens, mais aussi je peux avoir des auteurs, je peux avoir un éclairagiste, un ingénieur du son, enfin voilà, tout ce qui fait que le théâtre existe. Mais là, cette année, le projet est un fragment du roman d'Austerlitz de W.G. Sebald. Et voilà, donc pour l'instant, l'équipe est assez petite. Il y a deux acteurs, un ingé son, la lumière et moi-même.
Donc Fractal Théâtre est basé dans la région parisienne.
Oui, à Vincennes, dans le 9-4.
Explique-moi le parcours d'une Normande qui a atterri à Paris et qui se retrouve à Beaulieu, dans le Tarn-et-Garonne, pour discuter avec nous aujourd'hui.
Pour faire vite, la Normandie, c'était bien. C'était un peu petit. Et à l'époque où je suis née en fin 68, et le théâtre était un peu inexistant. C'était les tournées Quart Sainty, donc voilà, c'était un théâtre qui n'avait pas d'âme, qui n'avait pas... qui n'était pas contemporain en soi. Donc moi j'étais plutôt j'étais plutôt dans le cinéma, J'étais dans les cinémas art et essai très jeune, enfin voilà. Bon. Et donc je me suis dit, bon bah s'il faut faire quelque chose, bah faut que j'aille voir ailleurs comment ça se fabrique, comment on devient comédien déjà. Et donc, comme on le sait tous, la France est assez centralisée, en tout cas pour les comédiens, je suis montée à Paris. Et voilà, donc arrivée à Paris, j'ai passé des concours. En fait, je suis allée à Rennes, à l'école du Théâtre National de Bretagne, et je suis devenue comédienne. Et je suis retournée à Paris parce que c'est à Paris qu'on trouve le plus enfin, en tout cas pour moi, par rapport à Cherbourg, hein, je parle d'une Normandie précise de l'époque, où on trouvait plus de facilité à rencontrer des gens, des pensées, etc. Mais alors, maintenant, j'ai vieilli et donc j'ai monté des spectacles et j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Cadillac et Patrick Charbonneau qui sont venus voir une maquette que je présentais sur le... Je dis maquette parce que c'est un pré-travail, c'est une fin de résidence à Lille-en-Seine, aux portes de Paris. Et ils se sont déplacés et je crois qu'ils ont, enfin, c'est ce sentiment que j'ai eu, et ils ont beaucoup apprécié le travail et m'ont parlé de leur région, notamment Daniel, en me parlant de l'abbaye, de son travail à lui personnel aussi de peintre, de cette région qui culturellement a l'air extrêmement vivante, et m'a proposé de venir voir. Donc je suis venue voir.
Nous sommes dans l'atelier de Daniel Cadillac, peintre. Daniel Cadillac est aussi paysan, en production bio, à la retraite maintenant. Cécile, sa fille, a repris. Et nous sommes donc dans une ancienne remise, au-dessus de l'abbaye de Beaulieu, à Bosgueralde. Bosgueralde qui était un des lieux, une des granges de l'abbaye de Beaulieu. Nous sommes entourés de tableaux que peint Daniel, qu'il peint d'une façon, disons, ancestrale, en recomposant lui-même ses teintes à partir d'un solvant qui est de l'huile, de lin, et de pigments. Donc, ce qui est une peinture très difficile parce qu'on a très peu de teintes. Et on obtient des teintes que par superposition, en mélangeant les...
Par glacis.
Voilà, donc c'est une peinture très classique. Dans sa réalisation, par contre, c'est une peinture qui est très explosive dans son format déjà. Ce sont de très grandes toiles. Et puis, en mouvement... très abstraite, et quand même, tout en étant abstraite, extrêmement vivante, et une peinture qui fait
appel à la méditation.
À la méditation, à la réflexion. Et donc tu viens t'inscrire dans ce moment-là, et tu n'as pas un petit peu peur de nous, là, paysan d'un petit département oublié de France?
Ah ben non, au contraire, de toute façon moi je viens aussi d'un département oublié de la France. Bon, elle n'est pas oubliée par Areva, mais les gens qui y vivent, ils sont oubliés. Et non, je me sens bien ici. Je trouve le paysage magnifique. Et Daniel, on sent que c'est un enfant du pays. Il connaît tout. Il connaît la moindre plante, la moindre pierre, son histoire. Et comme moi, là, je travaille beaucoup sur la mémoire. C'est ce qui m'intéresse. Les traces qu'on peut retrouver non seulement chez les hommes, mais dans la nature, dans la pierre, Enfin, voilà, c'est un travail. Et quand je me balade avec Daniel chez vous, c'est un vrai plaisir parce que... Enfin, c'est plus qu'un plaisir parce que j'ai l'impression de sentir quelque chose, de sentir du vivant, même du vivant disparu. Et c'est cette disparition, moi, qui m'intéresse au théâtre. Cette disparition qu'on croit disparue, mais qui est peut-être plus présente que nous-mêmes, quoi. Et ici, je sens ça. Et par rapport au travail que je veux faire, ces pierres, cette atmosphère, ce climat, est tout à fait propice. Donc oui, ça me fait rêver. Je sens qu'on peut faire des choses assez, assez magnifiques, mais il faut prendre le temps.
Nous sommes dans un lieu qui doit avoir entre 600 et 800 ans d'existence. Dans un secteur que Daniel Cadillac a racheté quand il était prof au lycée agricole, parce que sa famille est une famille d'ici. En 1432, on trouve des traces de meuniers Cadillac dans la vallée de la Baye. Ils se sont ensuite installés dans la vallée de la Seille, et le moulin du Bruel était le berceau donc de la famille Cadillac.
D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai visité, j'espère que je ne me trompe pas, je crois que ça s'appelle le Moulin Petit.
Le Moulin Petit, oui, voilà, qui est juste en dessous.
Voilà, et vraiment, c'est un endroit qui m'a bouleversée, parce que c'est drôle, j'ai eu le sentiment que la nature se confondait avec le moulin, ne serait-ce que la couleur des fleurs. Alors je ne sais pas si ce sont des lilas, mais il y a des bleus extraordinaires. Et d'ailleurs ça m'a fait sourire parce que quand là, ici, je vous parle et je suis entourée de tableaux et le bleu a une présence inouïe. Et donc voilà, et à partir de là, en fait, moi ce qui me plaît dans le théâtre aussi, c'est le déplacer, inventer un lieu de théâtre. Non pas que le théâtre soit pas intéressant comme lieu au départ, mais c'est bien aussi de le déplacer. Et j'ai le sentiment que dans ces pierres, on peut entendre très fort une parole de théâtre. Parce que le théâtre, il parle au présent, c'est pas du passé, c'est pas du théâtre bourgeois, enfin, c'est pas ce dont je rêve.
Il parle, il crie, il propose, il insulte, il refuse. Par exemple, le théâtre de quelqu'un qu'on a ici, je pense, bien connu, bien que moi je l'ai découvert en Alsace quand j'étais étudiant, Armand Gatti, qui fut un des piliers du Grenier de Toulouse, dans les années 60, et à qui on doit, bien sûr, une magnifique pièce de théâtre sur la peine de mort et l'assassinat des militants politiques, qui s'appelle Concerto pour un piano devant deux chaises électriques, et à qui l'on doit aussi une formidable pièce de théâtre qui nous a fait découvrir à nous Français l'horreur de la guerre du Vietnam, et qui s'appelle V comme Vietnam. Cette pièce qui fut le fer de lance du début de la manifestation étudiante en 1965-66 à Strasbourg. Tu te situes dans cette lignée-là ?
Oui, mais alors, bien sûr, je me situe après, en toute modestie. Je ne suis pas Armand Gatti, loin de là. Mais par contre, là où je me situe, c'est dans sa colère, je pense. Enfin, c'est une colère positive.
Oui, c'est une grande confiance dans l'homme.
Voilà, ça oui, là je m'y retrouve. Je pense que moi je travaille moins dans le cri, peut-être plus retenu. Je pars aussi de tous ces endroits cachés. Je travaille beaucoup sur le caché, sur l'apparition du caché, sur l'accident. Et pour moi c'est important, mais... En même temps, je me dis c'est normal parce que c'est aussi des filiations, quoi. Gatti, il a exploré un territoire où il est très fort. Et je me dis, à nous de parler aussi, parce que le théâtre est là pour parler, mais aussi de trouver sa forme. Et moi, ma forme, elle serait peut-être plus dans une écoute poreuse, absorbante. Et c'est pourquoi certains lieux ici m'ont beaucoup plu. Alors je cherche le nom parce que c'est le bâtiment aussi qui est derrière.
Vosgueral.
Vosgueral. Et quand j'ai vu le chai,
le chai.
Et je me suis dit, ah là, oui.
Gigantesque.
Gigantesque. Et là, par exemple, c'est un lieu qui me parle énormément. Quand j'ai vu dans cet endroit aussi une sorte de balcon étonnant. Il n'y a pas plus dangereux que ce balcon-là. C'est pas un balcon, en fait. Je me dis, mais c'est un décor de théâtre. Là, il y a quelque chose qui peut se dire, qui peut s'entendre. Et oui, ça me fait rêver. J'aime bien l'intime aussi.
Donc, on peut penser que tu viendras un jour faire quelque chose chez nous, là. Ouais. Soit sur Bosguéral, soit, soit à l'abbaye, soit n'importe où dans le territoire.
Plaisir.
On t'attend, oui, bien sûr.
C'est gentil.
Ouais.
Non, mais évidemment, ça, on sent, quoi. C'est un lieu, ça parle. C'est un lieu qui parle.
Ouais, c'est un lieu qui parle.
Il suffit de l'écouter, en fait.
C'est un lieu qui murmure, c'est un lieu qui soupire, c'est un lieu qui crie. C'est un lieu où la guerre a été omniprésente depuis les Qatars jusqu'à la dernière guerre. Est-ce qu'on La division d'Asraïch était stationnée à Montauban.
Et d'ailleurs, le texte sur ces balles, le fragment, évidemment, c'est sur la dernière guerre. C'est, enfin, je dis évidemment parce que ces balles étaient assez traumatisées par ça. C'est quand même un auteur allemand né en 44 qui n'a pas pu vivre en Allemagne, qui n'a pas pu se sentir allemand en Allemagne, et donc qui est parti vivre en Angleterre. Et il a un travail un peu comme un autre auteur que j'admire profondément, Robert Walser. C'est-à-dire que ça a l'air tout doux comme ça, mais quand on l'écoute à la fin, on sent que ça parle des pires exactions humaines dans des lieux qui correspondent pas à des exactions. Il n'aurait pas fallu qu'il y en ait, mais il y en a eu. Et comment on les déterre, et comment on les remet au jour, et comment aussi on habite avec, et comment aussi on en fait le deuil.
J'espère que tu pourras venir au vernissage de l'exposition de Bettina von Arnim, qui est une Allemande, qui vit à Concotte, donc pas très loin d'ici. Notre région, paradoxalement, comprend beaucoup d'artistes allemands contemporains. Aujourd'hui, nous avons à côté de nous, qui va déjeuner avec nous tout à l'heure, Rita Baer, qui habite à Espinas et qui est une artiste allemande magnifique, mais qui est aussi une femme extraordinaire dans sa simplicité, dans son écoute des autres.
Oui, j'ai eu la chance de la rencontrer aussi.
Oui.
En fait, ici,
les gens sont très ouverts ici.
Et très généreux.
Oui. Moi, je ne suis pas d'ici, j'ai découvert cette région en venant du Beaujolais, donc du Lyonnais, où les gens sont assez fermés, sont très fidèles mais fermés, ne parlent pas beaucoup. Et j'ai découvert ici des gens extrêmement chaleureux, extrêmement ouverts, qui se sont jamais posé la question de savoir qui j'étais, d'où je venais, ce que je faisais, et qui m'ont dit, tu passes, tu manges avec nous à midi.
Voilà. C'est ce qui m'arrive depuis que je suis là.
Voilà.
Alors, merci.
Bon, Laurent, à notre tour. Tu nous as parlé, dans le courant de l'après-midi, d'une intervention que Fractal Théâtre pourrait faire, peut-être si les conditions sont réunies, si on a des moyens de trouver un subventionnement. C'est un parcours de découverte, disons, culturelle, à partir d'un sentier allant de l'abbaye jusqu'à Bosguéral, qui était une des granges de l'abbaye de Beaulieu, avec des points de rencontres d'artistes, de théâtre, de littérature, de poésie, mais on peut aussi envisager de peintres, de sculpteurs.
Voilà, c'est ça. De musique aussi.
De musique.
Enfin, de son, en tout cas.
Voilà.
Oui, ce serait magique de pouvoir inventer ça ensemble. Un vrai parcours, c'est-à-dire ne pas venir juste voir quelque chose dans un lieu donné, mais faire tout le trajet ensemble. Et pour ça, l'habiter. Et l'habiter d'une manière en accord avec le lieu aussi. Qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce qu'on peut dire? De quoi on va parler? Et inventer ça, trouver cette matière-là. Et faire en sorte que... Parce qu'on dit toujours... En tout cas, quand on habite dans une ville et qu'on en a assez de la ville, on a envie d'aller à la campagne. Alors ça fait un petit peu... enfant gâté. Mais il y a un endroit où on se dit, mais ici, et on le ressent très fort, on peut penser. Et donc, comment faire un parcours où il y a aussi de la parole, de la musique, mais aussi où on s'arrête et on pense avec les arbres. Avec les... Et, mais malgré tout, il y a autre chose. Il peut y avoir un texte, il peut mélanger tout ça, en fait. Et arriver au bout de la montée, comme une grande traversée, s'asseoir tous ensemble, et là, effectivement, rentrer dans le vif du sujet d'un projet théâtral spectaculaire, pas dans le sens où il y a beaucoup d'effets, mais spectaculaire dans le sens où on va recevoir quelque chose après avoir gravi ensemble des chemins.
Et d'autant plus spectaculaire qu'il sera sobre,
oui,
et qu'il sera fort.
Ouais. Enfin, c'est l'idée.
Voilà. Eh bien, on compte sur toi, on t'attend, on essaie de préparer ça, on essaie de l'imaginer, on essaie de trouver un financement.
Oui.
Et on essaie d'intéresser les gens de cette vallée, qui est une vallée extraordinaire, la vallée de la Seille, qui part donc de Parisot. Parisot, c'est les Templiers, donc c'est un monument de l'histoire de notre culture. Mais c'est aussi Beaulieu, avec ses cisterciens, qui est un autre monument de l'histoire intellectuelle de européen, parce que les cisterciens n'étaient pas qu'en France. Vous avez tous entendu parler donc des moines algériens de Tibérine. Eh bien, les moines algériens de Tibérine, ce sont des cisterciens. Les cisterciens sont toujours vivants. Vous les trouvez dans les trappes, vous les trouvez dans beaucoup de groupes communautaires catholiques et parfois œcuméniques. Et ces cisterciens ont créé, imaginé une autre forme de vie, tout simplement parce qu'ils étaient des écrivains, des scripts, et qu'ils transmettaient leur savoir en transmettant l'écrit. Et c'est par l'écrit qu'aujourd'hui nous avons pu comprendre qui nous sommes, et nous pouvons envisager, peut-être, pour certains, où nous pourrions aller.
Oui.
Merci Nathalie.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Remercions de nous avoir écoutés. N'oubliez pas le samedi 7 mai à 16h le vernissage de l'exposition de Bettina von Arnim. Et à bientôt le mois prochain pour une chronique numéro 4 de Beaulieu. À l'abbaye de Beaulieu en Rouergue.
Je vous remercie de votre attention.